Ce soir, nous recevons Michel Friedlander. Michel Friedlander est ingénieur de l'École supérieure de l'informatique de Paris. Il est actuellement, depuis 1995, directeur général du groupe Altran. Sa spécialité est la gestion et le management. Et puis, ses publications, c'est quelque chose d'assez original, puisqu'il a été à l'initiative d'une série d'ouvrages chez Gallimard, dans la collection Découverte, autour des thèmes du prix de la Fondation. Donc, il y a eu l'eau l'année dernière, et l'ouvrage en cours est actuellement la sécurité alimentaire. Voilà, Michel Friedlander, c'est à vous.
Bien, bonsoir. Donc, cette conférence sur le management d'hier et de demain, vers l'entreprise en réseau avec un point d'interrogation. Dans cette conférence, je traiterai du sujet en deux parties. Premièrement, un rapide exposé sur les modes d'organisation différents des entreprises. D'abord sur l'évaluation des modèles d'organisation existants. Ensuite sur l'évolution des modèles d'organisation et des modes de management associés. Et puis, dans une deuxième partie, le retour d'expérience de ce qui s'est passé dans l'entreprise Altran depuis sa création avec la mise en place d'une réelle structure en réseau qu'on appelle réseau neuronal ou réseau biologique. On détaillera tout ça tout à l'heure avec donc les détails du mode de fonctionnement de ce réseau et les méthodes qui permettent d'optimiser la performance de ce réseau et bien sûr les limites d'une telle structure. Et puis, la grande question, est-ce que c'est un mode d'organisation futur pour toutes les entreprises ou est-ce que c'est une utopie ou est-ce que c'est à mi-chemin entre les deux? Voilà, on va donc commencer d'abord par les critères de définition d'une organisation. Vous savez que généralement, quand on parle d'une organisation, on peut la définir sur trois critères majeurs. Premièrement, la spécialisation, deuxièmement, la coordination et troisièmement, la formalisation. On peut très bien dire d'une organisation, eh bien, elle regroupe un certain nombre de personnes qui sont chacun spécialisées dans un domaine et on définit à ce moment-là l'ensemble de cette organisation par l'ensemble des spécialistes et les thèmes sur lesquels ces spécialités s'exercent. Nous n'avons pas choisi cette option, je vous le dis tout de suite, quand nous avons créé l'entreprise, nous avons plutôt pris la dimension coordination, c'est-à-dire une dimension centrée sur les individus et une structure qui se définit par l'ensemble des événements qui permettent de coordonner la circulation de l'information et l'évolution des individus dans la structure. Quant à la formalisation, eh bien, c'est bien sûr une définition qui existe, c'est une dimension majeure de certaines structures, ça n'est pas le cas de la nôtre, mais je vous donne un exemple. Dans le domaine de la justice, eh bien, les structures sont formalisées, un juge d'instruction, il a un métier donné qui est totalement formalisé, et s'il laisse sa place à un autre juge d'instruction, eh bien, il abandonne momentanément cette fonction qui sera reprise par d'autres, et la fonction se définit par son formalisme, et non pas par l'individu qui exerce la fonction. Donc, vous verrez tout à l'heure que pour ce qui nous concerne, eh bien, la dimension majeure qui a présidé à la création de cette entreprise Altran, c'est la dimension liée à la coordination. Alors, usuellement, on détermine un certain nombre de mots pour classer une entreprise et pour voir ce qui peut avoir de l'influence sur son organisation. Bien sûr, la taille est un critère dimensionnant dans le mode d'organisation parce que quand une entreprise est de petite taille, eh bien, elle est généralement très souple. Et puis au fur et à mesure que la taille augmente, eh bien, cette souplesse disparaît parce que les niveaux hiérarchiques augmentent et ça a bien sûr une influence sur l'organisation de l'entreprise. L'âge, c'est une dimension double, c'est une dimension à la fois de l'entreprise et du secteur dans lequel cette entreprise exerce son métier. Plus une entreprise est âgée, plus elle a tendance à formaliser son mode de fonctionnement, et plus l'âge du secteur dans lequel intervient cette entreprise est élevé, et plus cette entreprise est dépendante de l'allure, je dirais, et des us et coutumes du secteur dans lequel elle intervient. La technologie, c'est un facteur dimensionnant aussi, parce qu'on peut décider de devenir dépendant d'une ou plusieurs technologies. Et même si on ne le décide pas, on peut se rendre compte un jour qu'on est très dépendant d'une ou plusieurs technologies dans l'exercice de son métier et dans l'organisation d'une entreprise. Et vous le verrez tout à l'heure, on a essayé dans notre entreprise de ne pas être directement dépendant des technologies, bien que ne traitant que de technologies à longueur de temps. Et puis l'environnement, c'est l'environnement généralement économique qui a une influence sur l'organisation des entreprises. Beaucoup d'entreprises modifient leur organisation en fonction du climat économique. L'exemple très récent, c'est la guerre du Golfe. Beaucoup d'entreprises ont modifié leur mode d'organisation pendant la guerre du Golfe parce qu'on est passé d'un environnement d'euphorie économique des années 80 à un environnement très dur sur le plan du business dans les années 90-94. Et beaucoup d'entreprises ont volontairement modifié leur organisation pour faire face à la modification de ce climat économique. Donc c'est un critère dimensionnant, mais on peut aussi y résister, et vous le verrez également tout à l'heure. Lorsqu'une entreprise grandit, je vous ai dit tout à l'heure que la taille était un critère dimensionnant dans l'évolution des organisations, lorsqu'une entreprise grandit, elle peut subir tout ce que vous voyez sur le schéma, c'est-à-dire bien sûr une spécialisation des individus qui s'y trouvent, bien sûr des lourdeurs de fonctionnement, bien sûr une augmentation du nombre de niveaux hiérarchiques, et plus ces trois facteurs augmentent, plus les besoins sont lourds en matière de coordination et plus les besoins existent en matière de formalisation. Si tout ça dérive, comme ça existe d'ailleurs dans beaucoup de structures, on arrive à une bureaucratisation, plus ou moins prononcée d'ailleurs, de la structure en question, en tout cas avec généralement des personnels d'état-major pléthoriques, une administration de l'entreprise qui est plutôt complexe que légère, et bien sûr une réactivité de la structure qui décroît au fur et à mesure que la structure grandit. Alors, quelques paradoxes. Il y a deux séries de paradoxes à gérer quand on s'intéresse aux organisations. Le premier paradoxe est lié au type d'organisation proprement dit. J'ai représenté ici les trois types d'organisations. Le plus à gauche, vous voyez une organisation de type pyramidal. Vers le milieu, vous avez une organisation de type matriciel, encore appelée organisation par projet ou structure par projet. Et en bas à droite, vous avez une organisation de type réseau. Vous voyez que j'ai situé chacune des organisations dans un spectre de paramètres opposant en fait le mode déterministe de management à la flexibilité et opposant la spécialisation à la coordination dans un environnement généraliste. J'ai situé donc chacune des structures au milieu de ce graphe de paramètres. Vous voyez que la structure pyramidale qui est très hiérarchisée est très déterministe, avec des gens plutôt spécialisés. La structure matricielle ou encore organisation par projet est à peu près à mi-chemin des critères qui ont été définis. La structure en réseau, elle, est hyper flexible. La coordination est le maître mot. En revanche, la spécialisation est quelque chose qui n'est pas flagrant, donc qui doit être géré. Et surtout, on s'éloigne du mode déterministe, et donc les personnels de l'entreprise peuvent très vite manquer de repères. Et on reviendra sur cette notion de repères. Alors, au niveau donc des individus, il y a également des paradoxes à gérer. Donc, même schéma de représentation avec des notions qui s'opposent. D'une part, la notion de groupe et la normalisation associée, d'autre part la notion d'individu et la personnalisation du fonctionnement de l'entreprise et du management. Et puis on oppose bien sûr l'environnement formel de l'entreprise et l'environnement informel. À nouveau, j'ai positionné chacune des structures pyramidales, matricielles et réseaux dans chacun de ces thèmes. Et il est évident que la structure pyramidale à nouveau est très normalisante pour l'individu, laisse peu de place à l'initiative, elle a l'avantage en tout cas de formaliser les choses. Et à l'autre bout du graphe, vous avez donc les structures en réseau qui sont très proches de l'individu, qui personnalisent leur management, mais qui ont l'inconvénient d'intervenir dans un environnement très informel qui donne un peu le tournis aux individus parce qu'ils manquent de repères. Donc tout n'est pas rose hein, dans tous ces modes de management. Bon, très rapidement, dans les enjeux d'une entreprise, il y a un équilibre à trouver entre des facteurs qui sont indiqués sur le graphe, entre de l'hyper-réactivité et de l'efficacité et de la pérennité, entre le global et le local, entre l'individuel et au minimum une intelligence collective qui permet quand même de capitaliser du savoir-faire, et puis la notion de temps réel, parce qu'il faut être très réactif, et puis en même temps, comment est-ce qu'on fait pour se synchroniser, pour se coordonner. Donc on est toujours tiraillé dans une entreprise entre ces différentes notions. Alors on va faire un petit balayage rapide de chacun des trois modes d'organisation que j'ai déjà cités, l'organisation pyramidale. Je vous laisse lire les caractéristiques. En tout cas, les limites sont très claires. D'abord, ce sont des types d'organisations qui ont du mal à s'adapter à l'évolution des marchés. Donc en termes de réactivité qui pose problème lorsque les marchés évoluent, lorsque le climat économique change brutalement, qui bien sûr limitent les individus dans leurs propres évolutions, mais qui ont le mérite d'être relativement bien planifiés et qui donnent des repères en tout cas plutôt clairs. L'organisation matricielle ou organisation dite par projet, a aussi ses limites. Puisque d'abord les relations ne sont pas si simples que ça, puisqu'en fait les individus de l'entreprise se trouvent pris entre deux dimensions par nature de la matrice, une dimension verticale qui est liée à leur hiérarchie, ils dépendent d'un chef de service par exemple, et une dimension horizontale qui est liée à l'appartenance à un projet. Généralement, les personnels de l'entreprise, au bout d'un moment, ne savent plus très bien qui est leur patron et qui gère quoi, et en particulier ils perdent la visibilité sur leur évolution de carrière parce qu'ils ne savent plus très bien qui leur fixe les repères leur permettant d'évoluer. Donc la visibilité, en tout cas en termes d'évolution personnelle, a tendance à diminuer. L'organisation en réseau neuronal ou en réseau biologique, le maître mot c'est une organisation centrée sur l'individu, c'est l'initiative laissée aux individus, c'est bien évidemment la réactivité maximum, c'est forcément une structure auto-adaptative, auto-apprenante, et on en reparlera tout à l'heure. Bien sûr, les limites, elles existent. C'est comment fait-on pour garder une cohérence à cet ensemble, si chacun, grosso modo, fait à peu près ce qu'il veut. Comment est-ce qu'on synchronise tout ça pour que, finalement, il y ait une capitalisation du savoir-faire de l'entreprise? Et comment est-ce qu'on fait pour que ce soit efficace et qu'il n'y ait pas un problème de surchauffe de l'ensemble de la structure. Je vous ai résumé les trois modes d'organisation avec les caractéristiques principales de chacun de ces trois modes. En gros, structure pyramidale bien centralisée et une communication plutôt monodirectionnelle. L'organisation par projet, une notion de transversalité qui est déjà intéressante, mais ce n'est pas de la décentralisation, c'est de la déconcentration. Mais ça pose des problèmes qu'on a indiqués tout à l'heure en termes de repères. Et l'organisation en réseau, dans lequel, là aussi, maître mot, la hiérarchie est totalement plate et dans laquelle la décentralisation des fonctions est totale. Alors une organisation en réseau neuronal ou appelée encore structure biologique, d'abord ça sert à quoi et on doit s'en servir dans quel contexte? Premièrement, le but c'est bien sûr la flexibilité complète, c'est la réactivité par rapport au marché, par rapport au business à réaliser. L'esprit start-up c'est une des grandes dimensions de ce genre de structure parce qu'à partir du moment où on se centre sur l'individu, on laisse aux individus dans l'entreprise la possibilité, quel que soit leur rôle, quelle que soit leur fonction, de créer leur start-up à l'intérieur de l'entreprise. Alors, ce n'est pas une création capitalistique de start-up, mais c'est une création opérationnelle de start-up. et on laisse l'autonomie et la responsabilité de la création d'une véritable start-up pour chaque individu à l'intérieur de l'entreprise. L'entreprise gérée comme cela devient très vite apprenante, c'est lié à son hyper-réactivité, mais elle est apprenante à condition d'arriver néanmoins à capitaliser une partie de son savoir-faire. Alors je vous ai indiqué sur ce graphe l'organisation telle qu'elle existe chez Altran. Alors c'est un petit dessin animé, vous allez voir, ça arrive petit à petit. C'est une photo, on va dire, ça peut être une photo instantanée à un moment donné d'un ensemble de relations entre des sociétés de notre groupe et des services qui d'habitude sont des services dits fonctionnels ou horizontaux ou transverses, comme vous voulez. Alors en bleu sont représentées des sociétés qui peuvent être des sociétés de notre groupe, mais qui peuvent aussi être des entités à l'intérieur des sociétés du groupe, c'est-à-dire des centres de profit, par exemple, hein, des départements, des divisions. Et en rouge, vous avez des structures qui sont des structures de services internes. Alors, je vous commente les sigles. EDI, chez nous, veut dire équipe développement individuel. Ce sont des gens qui s'intéressent à l'évolution de carrière des salariés. RH, c'est le terme habituel, ressources humaines. DAF, direction administrative et financière. L'IMA, c'est l'Institut pour le management Altran, qui est notre école managériale interne. MKT, service marketing. COM, service communication. DG, direction générale. Alors vous remarquerez d'abord une chose intéressante, c'est que la direction générale dont je fais partie dans ce groupe est considérée comme un service comme un autre, est structurée en réseau et connectée de la même façon avec n'importe quelle entreprise ou n'importe quel autre service. Et les flèches qui sont indiquées sur ce schéma indiquent les communications à l'instant T entre ces différentes structures opérationnelles et les différentes structures dites fonctionnelles. Donc c'est un graphe instantané qui se reconfigure en permanence. Le graphe peut être différent le jour suivant, la semaine suivante ou le mois suivant. C'est à l'instant T qui communique avec qui travaille avec qui a des synergies avec qui. Alors, bien sûr, c'est moins joli qu'un bel organigramme dans lequel on a décrit des fonctions et des tâches précises, mais c'est beaucoup plus apprenant et beaucoup plus réactif et très biologique, en fait, dans son mode de fonctionnement. Bon, grosso modo, pour traduire ce qui a été dit dans le graphe précédent, dans le mode de fonctionnement lié à l'entreprise en réseau, vous avez au niveau du comité de direction une définition globale de la stratégie du groupe. On veut être ceci, notre mission c'est cela, notre stratégie globale c'est ça, nos grands objectifs, nos grands thèmes, etc., nos balises. Et puis la direction générale du groupe, elle dit, moi je veux aider à coordonner, je veux faciliter les choses, je veux être un catalyseur, je veux être un aiguillon, je veux être un animateur, mais je ne donne pas de directive. Donc c'est un comité de direction qui ne donne pas de directive. Quand même bon de le noter. Et l'ensemble des sociétés, au contraire, qui composent le groupe, elles sont les sociétés qui prennent réellement les décisions. Et quand je parle de sociétés, ça peut être soit des structures juridiques, soit des entités de type centre de profit à l'intérieur d'une entité juridique du groupe. Donc les prises de décision et les actions se situent au niveau des nœuds du réseau et pas du tout au niveau central. Donc quand on dit tout vient des pôles, on dit les structures opérationnelles décident ce qu'elles ont envie de faire et communiquent entre elles pour que les choses se réalisent. Alors pourquoi un réseau? On peut le regarder, c'est ce qu'on appelle en tout cas une approche systémique. On a tendance à dire, si on veut utiliser des méthodes, des savoir-faire et avoir accès à l'information dans un groupe, il est intéressant d'être à la fois interrogateur et acteur de l'information. Et là, on retrouve, c'est pour ça que je vous ai indiqué parallèle Internet, on retrouve le mode de fonctionnement, en tout cas sur le plan philo de l'Internet, c'est-à-dire Quand vous vous connectez sur le web, eh bien, vous êtes à la fois interrogateur et apporteur d'informations, puisque vous-même vous mettez en ligne des informations et vous accédez aussi à d'autres informations, et d'autres que les vôtres. Enrichissement mutuel, c'est la notion de fertilisation croisée, c'est-à-dire comment faire profiter l'ensemble des cellules du réseau des bonnes pratiques, comment est-ce qu'on peut faire tout ça, partager les connaissances qui existent dans le groupe. En termes de simplicité, il est clair qu'il n'y a pas plus simple, puisqu'on travaille sur des structures élémentaires et sur des liens entre ces structures. La souplesse, elle est liée justement à la capacité à combiner les cellules entre elles et à réagir très vite à toute modification, en particulier du climat économique. Le mode d'activation, les différents acteurs de l'entreprise, l'ensemble des salariés, les consultants pour ce qui concerne Altran, les managers, les associés, échangent leur savoir-faire sur des sujets précis. Il n'y a pas de réunion pour des réunions, mais il y a des rencontres autour d'un thème précis dans lesquelles les gens estiment qu'il existe une vraie synergie entre différents acteurs. Les connexions sont sur mesure, c'est-à-dire qu'elles se font en temps réel, elles ne sont pas imposées, elles ne sont décrites dans aucun manuel, et chacun trouve la connexion qu'il souhaite. Donc chacun constitue dans son réseau son propre réseau adapté à la circonstance du moment, qui peut être différente de ses connexions d'hier ou du mois dernier. Des relais. Alors, quand on est dans un réseau, je vous le disais tout à l'heure, en général, on perd vite pied et on ne connaît pas très bien les clés d'accès, puisqu'en fait, on a une structure relativement floue et on sait que l'information se situe quelque part et on sait qu'il existe quelque part des acteurs du réseau qui ont un savoir-faire dans un domaine donné et on voudrait bien avoir accès à ce savoir-faire. Donc on a besoin d'avoir les clés du réseau pour savoir qui contacter quand on a besoin de quel retour d'expérience. C'est pour ça que la notion de relais est fondamentale dans un réseau de ce type. Les relais sont des personnes ou des mini-structures qui orientent les individus qui cherchent de l'information ou du savoir-faire au niveau du réseau et qui coordonnent bien sûr ces actions. Alors pourquoi des référents ? En dernière ligne de cet écran, vous voyez le mot référent. Tout simplement, la structure en réseau, c'est une structure très démocratique. Et comme toute belle démocratie, d'abord, on n'a pas trouvé beaucoup mieux comme système, ou en tout cas, c'est plutôt le moins mauvais. Mais dans toute démocratie, on donne finalement beaucoup de liberté aux gens, et c'est magnifique. Et dans une entreprise, on donne donc beaucoup de liberté à des gens qui sont quelquefois très jeunes, qui sont de jeunes managers et qui peuvent faire donc beaucoup de bêtises. Donc on autorise un droit à l'erreur, mais il faut aussi savoir dire il y a des recours, donc comme dans toute bonne démocratie, il y a des recours, il y a donc des juges de paix, il y a donc 60 millions de consommateurs, l'équivalent de toutes ces structures de recours qui permettent à tous les salariés de l'entreprise de ne pas dire un jour... C'est très sympathique cette structure en réseau, c'est très apprenant, c'est très biologique, mais c'est vraiment le Far West. Donc on doit éviter qu'une structure de ce type devienne le Far West, et ça doit rester une structure civilisée où les libertés individuelles s'exercent dans le cadre d'un respect mutuel. Dans le cadre donc d'une structure en réseau neuronal, bien sûr, la croissance est quelque chose qui est recherché et on a essayé d'identifier en quoi ce modèle neuronal peut apporter des fruits intéressants en matière de croissance. Alors vous voyez qu'il y a trois groupes de bénéficiaires, bien sûr, le groupe lui-même, la société, chaque société à l'intérieur du groupe, et puis les individus qui composent chacune des sociétés ou chacune des structures élémentaires du groupe. Pour le groupe, ça lui donne bien sûr une capacité de développement illimitée, puisqu'en fait, sa structure ne se complique pas, elle continue à être composée de structures cellulaires qui s'interconnectent, et quelle que soit sa taille, on a toujours un fonctionnement en réseau, simplement le réseau se densifie, les connexions se densifient aussi, mais il n'y a pas de modification réelle, structurelle, de l'organisation au fur et à mesure des années. Les leviers de croissance, vous imaginez qu'ils sont toujours intacts, puisque si vous arrivez à faire régner un esprit start-up dans chacun des endroits de l'entreprise, vous avez toujours, quelque part, quelqu'un qui dit « je sais créer mon centre d'activité, je sais le faire croître de 50%, 60% par an, je me considère comme une PME indépendante, si ce n'est que je fais partie, bien sûr, d'une société, d'un groupe, d'un réseau, mais j'ai des leviers de croissance personnels. » L'agilité organisationnelle, bien évidemment, puisque la structure est suffisamment souple pour se reconfigurer, et bien sûr, c'est une structure efficace qui permet, en tout cas, de réagir vite aux aléas de conjoncture économique. Pour chaque société, c'est le cas dans notre groupe, chaque société qui compose notre groupe est essentiellement issue d'acquisitions, donc obtenues par croissance externe. Et le maître mot de cette croissance externe, c'est respect des cultures, respect des origines des sociétés, respect des racines des entreprises qui composent le groupe. Donc ça ne peut marcher que si vous décidez qu'il n'y aura jamais de plaquage culturel d'un groupe sur l'ensemble de ces sociétés. Et donc on ne va pas aller dire à chaque société, c'est maintenant comme ça qu'il faut travailler. On va laisser les sociétés garder leur autonomie et trouver plutôt entre elles des modes de fonctionnement et d'échange. Donc vous trouvez le mot dans les bénéfices pour chaque société, vous trouvez le mot fertilisation, croisé, puisqu'on essaye d'organiser le retour d'expérience et la capitalisation donc de savoir-faire. Sur le plan individuel, eh bien, à partir du moment où la structure est centrée sur l'individu, eh bien, son évolution est la première chose qui compte et ses perspectives d'évolution doivent être quelque chose qu'il peut avoir en ligne de mire en permanence, à condition de l'accompagner, à condition de l'aider, à condition de le tutoriser et de lui donner des repères qui vont bien. La progression est rapide puisqu'on voit de jeunes personnes avoir très vite de très grosses responsabilités. Ça choque très souvent les organisations traditionnelles. Vous avez de tout jeunes qui sont directeurs de centres de profit de 40, 50, 60 personnes. Bon, eh bien, s'ils ont ça, c'est qu'ils le méritent, c'est qu'ils ont prouvé leur efficacité. Ça n'est pas une question d'âge, ça n'est pas une question d'ancienneté dans l'entreprise, c'est une question d'une part d'efficacité, d'autre part de qualité du travail et des relations. Et puis c'est bien sûr une question de champ de conscience et de maturité comportementale. Pour vous donner quelques repères sur la société Altran, illustrer la structure et pour expliquer qu'on n'est pas dans quelque chose de philosophique et qui concerne une société de 10 personnes. La société a été créée en 82. L'année de sa création, elle comportait en milieu d'année une dizaine de consultants. Elle s'est introduite en bourse au second marché en 87. Elle comportait un peu moins d'un millier de consultants en 92 et elle a à l'époque commencé sa diversification, bien sûr sectorielle et technique, qui était commencée depuis très longtemps, mais surtout géographique, d'abord régionale, puis internationale, avec une internationalisation beaucoup plus large à partir de 95. 97, une situation de leader en Europe du Conseil en technologie innovante. En 98, un passage du second marché au règlement mensuel, toujours Bourse de Paris, une présence dans 12 pays européens. En 99, fin de l'année dernière, donc un peu plus de 8000 consultants. Aujourd'hui, une implantation complète en Europe et des plateformes d'observation au Brésil, à Singapour et aux États-Unis. Et puis, deux projections, la première et la plus proche étant une taille de plus de 15 000 consultants en 2002. Quand on parle de consultants de l'entreprise, ce sont tous bien sûr des salariés, tous ingénieurs de formation et tous en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise. Alors, ça paraît monstrueux d'avoir un groupe de bientôt 15 000 consultants, mais à partir du moment où vous avez une structure cellulaire, eh bien, vous continuez à ne parler que de petites entités, de centres de profit autonomes et de petites start-up qui vont monter à 20, 30 personnes ou 40 personnes rapidement. Donc vous ne changez rien à votre mode d'organisation, si ce n'est qu'il faut de plus en plus d'animateurs pour que ce réseau fonctionne et de plus en plus de relais. Petite anecdote tout de même, quand on s'est introduit en bourse en 87, les analystes financiers nous ont dit « ça a l'air très sympa votre structure, mais ça ne marchera pas longtemps parce que la structure en réseau c'est bien, mais vous serez obligé de former, d'abord d'identifier, de recruter et de former autant de managers qu'il le faudra pour que vous gardiez cette décentralisation. Donc chaque fois que vous doublerez, vous devrez doubler le nombre de managers. Et quand vous vous serez multiplié par 100, vous devrez avoir 100 fois plus de managers. Alors c'est d'ailleurs bien ce qu'on a fait, mais c'est d'ailleurs ça la vraie difficulté, c'est de dire comment allons-nous faire. On l'a fait, hein, mais c'était la vraie question à l'époque pour identifier, recruter, former et faire évoluer suffisamment de managers pour animer, eux se comportant comme des véritables responsables de PME, pour animer une structure totalement décentralisée, apprenante et responsabilisante. Donc c'est un vrai pari et c'est franchement pas si simple que ça. Donc ça a l'air facile à expliquer, mais c'est très compliqué à réaliser, en tout cas au quotidien. Si on passe aux risques et aux limites, et finalement à la question qui a été posée tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que c'est une utopie, est-ce que c'est le mode d'organisation de demain pour les entreprises, on va parler donc des risques et des limites d'une structure neuronale. Les limites, eh bien, j'ai repris pour parler des limites la même structure que tout à l'heure pour parler des avantages, c'est-à-dire les problèmes que ça pose au groupe, le problème que ça pose à la société, chaque société qui compose le groupe, et les problèmes que ça peut poser à l'individu. Bon, pour le groupe, il y a un vrai problème de cohérence, et je vous l'ai dit, à partir du moment où toutes les mini-cellules de l'entreprise peuvent faire à peu près ce qu'elles veulent, eh bien, il y a un vrai problème de cohérence de l'ensemble. D'autre part, si on laisse tout le monde communiquer à peu près comme il le souhaite et réaliser ses propres connexions avec d'autres cellules de l'entreprise, on se dit, est-ce que finalement l'information circule bien ? On n'en a pas le contrôle, donc on ne le sait pas vraiment. Ensuite, tout ça c'est bien gentil, mais la capitalisation de savoir-faire, elle se fait comment ? À force d'avoir des relations informelles entre les individus et les cellules qui composent l'entreprise, comment est-ce qu'on est sûr que le savoir-faire est réellement capitalisé ? Et quand on parle d'entreprise apprenante, comment est-ce qu'on est sûr que l'entreprise apprend réellement et que sa structure a plus de connaissances que l'année passée ou l'année d'avant ? Et puis la lisibilité, eh bien, il est certain que quand on nous demande un organigramme de notre structure, on est bien embêté et les gens trouvent donc qu'on n'est pas sérieux puisqu'on ne sait pas dessiner d'organigramme de notre groupe et nous, on en est toujours très très fiers. Les retombées pour la société, bon, d'abord quand on est une société du groupe, en général on est donc une PME, et la question c'est comment je fais pour accéder au savoir-faire de l'ensemble du groupe, comment je fais pour réaliser les fameuses connexions dont on a parlé au niveau du réseau. Donc qui a les clés, comment est-ce qu'on peut m'indiquer les liens les plus efficaces? Alors la concurrence interne, j'ai mis un point d'exclamation parce que à partir du moment où les structures d'une entreprise sont libres, eh bien, elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent et en particulier d'être concurrentes les unes vis-à-vis des autres. Et ça, généralement, ça pose quelques problèmes. En période d'euphorie économique, ce n'est pas tellement le problème. En période de récession économique, il y a souvent une volonté de la part des managers que la direction générale du groupe mette un peu d'ordre et détermine très vite des secteurs, des territoires dans lesquels les uns ou les autres n'auront pas le droit d'aller pour que les frontières soient plus claires. Nous n'avons jamais cédé à ce genre de questions, jamais. Et même en période difficile, comme a été la période 90-93, eh bien nous avons toujours laissé la concurrence interne libre. Nous ne l'organisons pas, nous ne la générons pas, mais nous ne l'empêchons pas. Alors, pour l'individu, eh bien les limites sont du même ordre, c'est-à-dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, on donne beaucoup de responsabilités à des personnes plutôt jeunes. Est-ce que c'est trop ? Est-ce que les gens sont suffisamment mûrs pour prendre ces responsabilités ? Est-ce qu'il y aura des dérives ? Certainement, hein, comme dans toute démocratie. Le peu de repères formels est un problème pour les individus eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne visualisent pas forcément leurs évolutions de carrière, parce que leurs évolutions de carrière peuvent se dessiner au fur et à mesure qu'ils avancent eux-mêmes, et donc il est difficile, quelques années à l'avance, de formaliser ce que pourrait être une évolution de carrière dans un groupe comme le nôtre. Maintenant, on peut donner des tas d'exemples, on peut donner des tas de contacts pour que chaque personne puisse dire « je vais contacter des gens qui ont eu le même genre de parcours que moi et je voudrais savoir ce qu'ils sont devenus ». Mais ça n'est généralement pas très formalisé. Et puis, sur le plan des individus, sur le plan du niveau des individus, c'est très compliqué aussi parce que quand vous voulez une structure de ce type-là, vous êtes obligé d'avoir des gens d'abord extrêmement mûrs sur le plan comportemental, extrêmement souples, acceptant de se remettre en question tout le temps, qui apportent des choses, qui sont relativement créatifs et qui acceptent le sens des responsabilités comme l'accepterait un créateur de start-up. La seule différence entre nos managers et des créateurs de start-up, ou des patrons de PME d'ailleurs, hein, au sens capitalistique, c'est qu'ils n'ont pas les banquiers tous les jours au téléphone qui leur disent « votre trésorerie est négative ». C'est à peu près la seule différence. Mais en termes de stress, eh ben, c'est assez approchant, c'est une responsabilité qui est finalement assez lourde. Alors les conditions du succès, ben on va les examiner rapidement. Ça passe par bien sûr la description très rapide de notre métier. Notre métier justifie beaucoup qu'on ait souhaité utiliser ce mode d'organisation. La valeur des individus, je vous l'ai dit à l'instant, c'est absolument fondamental. Si les gens ne sont pas de bon niveau, on ne peut pas bâtir une organisation de ce genre-là. L'utilisation du modèle neuronal à tous les niveaux, ça c'est aussi particulier. Beaucoup de sociétés qui existent aujourd'hui, en Europe ou dans le monde, donnent l'impression d'une structure neuronale et sont en fait des sociétés, il n'y a pas de critique là-dedans, c'est un état de fait, hein, sont des sociétés souvent organisées en matriciel, dont une partie seulement est organisée en réseau. Et lorsque vous décidez d'organiser l'ensemble d'une structure en réseau, à tous les niveaux de l'entreprise, eh ben c'est beaucoup plus compliqué, en tout cas, à coordonner. La hiérarchie plate, ça, c'est obligatoire, c'est-à-dire un faible, très faible nombre de niveaux hiérarchiques. Dans ce groupe, c'est assez simple. Il y a un niveau direction générale du groupe, il y a un niveau direction des sociétés, et il y a un niveau manager avec ses équipes de consultants. Il y a trois niveaux hiérarchiques dans un groupe qui aujourd'hui donc avoisine les 10 000 personnes. Ce nombre de niveaux hiérarchiques n'a pas changé depuis la création de l'entreprise en 1982. Le management centré autour de l'individu, on en a parlé, c'est la chose fondamentale. On construit autour des individus, on ne détermine pas de profil de poste lié à une case d'un organigramme qu'on souhaiterait remplir avec des individus. On regarde des individus de talent, et on cherche à savoir comment on peut construire une société avec des gens comme ça. C'est une approche qui, sur le plan du management, est tout à fait différente d'une approche classique. Et puis les outils facilitateurs, eh bien, c'est tout ce qui permet donc aux acteurs de l'entreprise de s'y retrouver, de créer des liens, de communiquer avec d'autres, de trouver des gens qui peuvent leur apporter du retour d'expérience, qui peuvent les guider, qui peuvent les coacher dans le cadre de leur fonctionnement. Un mot sur nos métiers. Le cœur de notre métier, c'est le conseil en innovation, à forte valeur ajoutée technologique, donc ça concerne bien sûr l'ensemble des high-tech. On répond à des défis technologiques posés par des clients qui sont des industriels ou des sociétés du secteur tertiaire. La grosse valeur ajoutée qu'on peut avoir indépendamment des spécialités techniques, c'est ce qu'on peut appeler une vision transversale des technologies, c'est-à-dire une capacité à résoudre des problèmes technologiques en utilisant un savoir-faire qui peut-être a été déjà utilisé dans un autre secteur économique. C'est donc une vision dite décloisonnante des technologies. Vous savez qu'en France, les technologies sont très verticalisées, la recherche est très verticalisée par secteur économique. Eh bien, là, on a une approche très transsectorielle de la recherche et développement, avec aussi cette notion de fertilisation croisée qu'on offre à nos propres clients. Peut-être d'ailleurs que je pourrais vous projeter en parallèle un autre slide. Vous avez besoin de ce micro-là ou si vous voulez que je le garde, je vais essayer d'éclipper. Vous n'avez pas besoin, bon, je le laisse. Je vais vous présenter un autre slide qui vous donne, voilà, l'ensemble des domaines dans lesquels on peut intervenir pour nos clients. Vous voyez que dans un environnement technologique donné, les interventions qui sont demandées à notre groupe vont en amont de la stratégie et de l'audit technologique, en passant par, bien sûr, l'architecture des solutions technologiques proposées et en terminant par l'industrialisation et les process de fabrication. Donc on déroule de cette façon-là toute la chaîne de composition, de création d'un produit, d'un équipement, d'un process. Le modèle neuronal qu'on utilise est un modèle qui s'applique, on l'a vu, à la fois à l'ensemble du groupe, à chaque société du groupe et à chaque manager de centre d'activité. Et le manager lui-même est ce que nous appelons un intrapreneur, c'est-à-dire un entrepreneur dans l'entreprise. C'est donc un créateur de start-up à l'intérieur d'une entreprise. Il a un rôle qui est à la fois un rôle, bien sûr, de dirigeant d'entreprise, mais il a un rôle fondamental qui est un rôle de révélateur de talent. Et ça, c'est quelque chose qu'on en demande à tous les niveaux de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez aider à révéler des talents, c'est-à-dire identifier autour de vous des gens qui, semble-t-il, pourraient avancer plus vite qu'ils ne le font aujourd'hui, ont des compétences telles qu'elles seraient valorisables dans un climat encore plus efficace. Alors, la valeur des individus, on en a parlé, c'est un fondement d'une organisation en réseau, c'est-à-dire détecter des gens à très fort potentiel, les intégrer dans l'entreprise, leur permettre d'évoluer. Ceci dit, c'est une spirale vertueuse, parce que si vous attirez des gens de talent à très fort potentiel et que vous ne les faites pas évoluer, en général, vous les perdez. C'est au moins le côté vertueux de cette spirale, donc il est nécessaire de leur proposer des perspectives d'évolution. Les mots-clés sont les mots qu'on a déjà rencontrés, l'autonomie, l'initiative, des idées, c'est-à-dire des gens créatifs, un esprit d'entreprise, y compris à un niveau de petite structure, et bien sûr un sens des responsabilités. Les personnes que nous recrutons dans notre société correspondent à un niveau de sélectivité de 5%, c'est-à-dire que nous recevons plus de 60 000 candidatures par an. Sur ces 60 000 candidatures, nous recevons d'ailleurs 60% de candidatures spontanées, qui est un nombre important. Et sur ces 60 000 candidatures, nous recrutons seulement 5% des gens qui nous écrivent. Vous avez bien calculé, ça fait donc bien 3 000 personnes que nous recrutons par an, ce qui est à peu près ce qu'on recrute pendant l'année 2000. Bon, hiérarchie plate, je mentionne au passage que ce groupe est depuis 3 ans le premier recruteur français d'ingénieurs et actuellement le plus gros recruteur d'ingénieurs en Europe, d'ingénieurs ou d'équivalents, puisque dans les autres pays, vous avez les équivalents dans les grandes universités européennes. Bon, hiérarchie plate, on en a parlé. Pour animer ce type de structure, eh bien, les niveaux hiérarchiques doivent être extrêmement faibles. Alors, sur le mode de management et sur l'individu au milieu de ce processus, l'initiative et la capacité à proposer des choses, le coaching, c'est quelque chose de très important chez nous, c'est-à-dire que il y a très peu de gens qui dirigent et il y a beaucoup de gens qui coachent. On ne sait pas très bien ce que veut dire être le chef de quelque chose chez nous. Beaucoup de managers viennent me voir pour me demander comment ils verront au cours de leur carrière, comment ils auront progressé en termes de management. La notion très française du management, ça consiste à pouvoir dire à sa voisine qu'on a quand même plusieurs centaines de personnes sous ses ordres. Et le mot ordre est quelque chose qui est très ancré en France. Et la meilleure méthode pour savoir si on manage vraiment, d'habitude, c'est de dire avec une seule note de service, je peux embêter d'un seul coup combien de personnes. Vous savez que c'est une notion très, très française, encore très ancrée dans le mode de management. Alors, quand les managers viennent me voir et me demandent comment ils pourront évaluer l'évolution de leurs responsabilités, je leur demande de compter le nombre de personnes auxquelles ils peuvent rendre service dans l'entreprise et voir si ce nombre quotidiennement augmente. Et je leur demande de regarder le niveau de responsabilité et le niveau de professionnalisme des gens qu'ils sont en train de coacher. Et certain que si vous coachez seulement des consultants, vous êtes certainement responsable d'un département, manager. Si vous coachez des juniors managers, c'est que vous êtes sûrement manager senior. Si vous coachez des patrons, c'est que vous êtes certainement devenu quelqu'un de plus important dans le groupe. Donc je qualifie les responsabilités au regard du niveau des gens qui sont coachés dans l'entreprise. Beaucoup de fonctionnement par binôme dans la société, parce que possibilité d'échanger des idées, des savoir-faire à deux, c'est certainement plus facile et c'est beaucoup plus déstressant. Le droit à l'erreur, ça fait partie des choses difficiles à accepter par un management centralisé, c'est-à-dire, encore une fois, les gens ont de l'initiative, ils ont le droit de se tromper. Ce droit à l'erreur fait partie de l'apprentissage. On n'est pas obligé de faire 10 fois de suite la même erreur, certes, mais le droit à l'erreur fait partie de ce qu'on appelle le cycle de l'apprentissage. Et puis à partir du moment où vous êtes exigeant sur les individus et que vous voulez qu'ils évoluent, qu'ils se remettent en question, qu'ils proposent des choses, qu'ils soient créatifs, vous devez pouvoir apporter des outils qui leur permettent de progresser, parce que sinon ils se sentent effectivement un peu seuls, donc ils ont besoin bien sûr d'outils, de support et de coaching permanent. Bon, quand on parle d'état d'esprit start-up, eh bien, on retrouve un certain nombre de termes qui sont d'ailleurs d'actualité en ce moment quand on parle de start-up. La créativité, l'esprit d'entreprendre, l'individu au centre du débat, mais l'émulation et l'enrichissement mutuel arrivent à partir du moment où vous êtes dans une structure plus étoffée avec plusieurs sociétés autour de vous et des échanges possibles et de l'enrichissement mutuel. La notion d'entreprise apprenante est liée au fait que si vous avez une structure en réseau, donc très décentralisée, vous devez, si vous voulez capitaliser du savoir-faire, avoir un certain nombre de relais qui vous permettent donc d'animer le réseau. Et les relais sont des gens ou des petits groupes qui doivent détecter justement les potentiels et qui doivent leur permettre d'essaimer, en fait, de transmettre leur savoir-faire à d'autres personnes ou à d'autres structures du groupe. Donc, c'est un état d'esprit permanent. Les outils que nous avons mis en place sont pas forcément exhaustifs dans la liste qui est indiquée là, mais ils sont déjà importants dans cette liste. L'Institut pour le management, c'est donc notre école de management interne. Elle permet de former à la fois des jeunes managers, des consultants, mais aussi des patrons de sociétés. Donc, elles offrent du coaching en formation permanente aux patrons des différentes sociétés du groupe. Le forum des dirigeants est un forum organisé sous forme d'échanges d'expériences entre l'ensemble des dirigeants du groupe. Le benchmarking interne est pratiqué systématiquement par les différents managers. Et le coaching, quelque chose qui est donc présent au quotidien dans notre entreprise. Donc en conclusion, je pense être toujours à peu près dans les temps, lorsqu'on parle d'un réseau neuronal ou d'un réseau biologique, comme celui qu'on a constitué, on travaille bien sûr sur la valeur des gens qu'on a dans l'entreprise. On a un mode de management centré sur les individus eux-mêmes et leur évolution et un esprit start-up qu'on essaye de conserver au fil des années, quelle que soit la taille de l'entreprise. Alors, tout ça paraît très très simple, effectivement, sur le papier. C'est très compliqué parce que, d'abord, il faut une volonté farouche de la part d'une direction du groupe de ne pas recentraliser ses actions au fil des années, parce que c'est une tentation qui peut être très forte. Donc, il faut se garder de vouloir recentraliser à un moment donné parce qu'on a l'impression que ça va être plus simple à contrôler. Et puis, les gens ont un comportement individualiste. Et quand vous donnez beaucoup de responsabilités et beaucoup d'initiatives à des individus, eh ben, il n'arrive pas toujours à agir dans un esprit collectif. Et donc ce déchirement permanent entre « je construis mon petit pôle personnel », d'ailleurs vous m'avez dit que je pouvais avoir un comportement de start-up, et néanmoins je suis dans un groupe qui a besoin de capitaliser du savoir-faire et je ne dois pas avoir un comportement de cow-boy, eh bien voilà les déchirements permanents qu'on peut avoir dans une entreprise du type d'Altran. Alors je crois qu'à travers les questions, on aura l'occasion de préciser un certain nombre de points et je vous remercie de votre attention.
Michel Friedlander, merci beaucoup. Donc, nous allons passer aux questions. Il y a deux appariteurs avec micro dans la salle. Donc, s'il vous plaît, en bas là. Merci. Là. Voilà. Oui, madame.
Excusez-moi de vous poser des questions plutôt assez simples. Lorsque vous utilisez le mot neuronal ou biologique, vous ne déterminez pas du tout l'aspect sous lequel vous utilisez le mot. Ce qui fait qu'on ne sait pas très bien de quoi il est question. D'autre part, lorsque vous parlez de management, on se demande quel type d'entreprise. Est-ce que ce sont des entreprises préexistantes que vous avez achetées? Est-ce que ce sont des entreprises, disons, en faillite, qu'on a achetées contre un franc, comme ça s'est fait assez souvent? Est-ce que ce sont des entreprises dont les dirigeants sont un peu faibles et vous allez les voir en leur disant, vous savez, on sait manager et on va vous faire cela? Enfin, disons, on ne sait pas du tout la nature des entreprises, leur passé, leur histoire, leurs salariés, on ne sait pas du tout si on les renvoie, si on fait des licenciements en masse, et on ne sait même pas du tout leur type de production. Lorsque vous parlez de concurrence, par exemple, je pense que c'était assez facile de dire concurrence entre tel type d'activité ou tel type d'activité, mais là, disons que vous nous avez donné une information tellement théorique qu'on ne peut pas mettre quoi que ce soit de concret sur ce que vous avez dit. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur ces questions qui sont nécessaires pour qu'on comprenne exactement comment ça fonctionne?
Écoutez, d'abord, oui, c'est l'utilité des questions. D'abord, c'est l'utilité des questions. Alors, premièrement, pour ce qui concerne le mode de fonctionnement en réseau neuronal, ou que je préfère biologique, sous quelle forme est-ce que tout ça est considéré? C'est le fait de dire, entre les différentes sociétés du groupe, qui, je le rappelle, puisqu'on l'a mentionné tout à l'heure, sont toutes des structures de conseil en technologie et en innovation. C'est le cœur de métier du groupe. Toutes les sociétés du groupe ont cette activité, elles sont toutes très homogènes. On est une société de conseil, fait du conseil, de la réalisation, des études. Alors, je crois qu'on l'a mentionné tout à l'heure, il y a actuellement plus de 8000 salariés dans le groupe. J'ai bien spécifié que toutes ces personnes étaient ingénieurs et embauchées en contrat à durée indéterminée. Je pense que vous l'avez entendu, chère madame.
Oui, bon. Oui. Oui, monsieur, s'il vous plaît.
Je voudrais savoir si vous pensez que ce type de construction de l'entreprise en réseau soit applicable à des entreprises autres que des entreprises de conseil en haute technologie comme la vôtre, et en particulier à des entreprises traditionnelles, bon, des grandes entreprises industrielles. Je vous remercie.
Ben, il apparaît que, enfin, c'est certainement pas moi qui détiens cette réponse, mais il apparaît qu'en théorie, oui. Mais beaucoup d'entreprises industrielles n'ont pas démarré leur activité avec un mode de fonctionnement tel que celui-là. Le mode de fonctionnement qu'on a voulu adopter, c'est on s'occupe d'abord des individus, on construit une activité autour des individus, et les individus montent des structures à travers leur métier de base, qui est, je le rappelle, le conseil en technologie, et leurs talents. Si ce n'est pas dans les fondements de l'entreprise, ce n'est pas si facile d'aller vers une structure de ce type-là, hyper décentralisée. Généralement, les sociétés industrielles qui essayent réussissent en partie, en fait, vont vers une structure plutôt matricielle. C'est le cas de General Electric. Hein. Welch a essayé de transformer General Electric en une société plutôt en réseau. En tout cas, c'est ce qu'il a annoncé, c'est ce qu'il a souhaité faire. C'est une volonté personnelle. Il y est arrivé en partie, mais dans l'ensemble de son entreprise, il a plutôt généré une activité matricielle, bon, qui est ce qu'elle est, qui est d'ailleurs composée à la fois d'entreprises industrielles et d'entreprises de services. Donc je pense que quand ça n'est pas dans l'origine de l'entreprise et la volonté des dirigeants lorsqu'ils ont créé l'entreprise, je pense que ce n'est pas si facile à faire, mais je ne suis pas sûr que ce soit spécialement corrélé au fait d'être dans une activité de conseil ou dans une activité de fabrication.
Oui, madame, s'il vous plaît.
Dans une structure neuronale, où situe-t-on d'une part les actionnaires et d'autre part les partenaires sociaux ? Et le cas échéant, quelles caractéristiques novatrices dans la relation entre ces deux pôles au sein de cette structure neuronale ?
Les actionnaires, ils sont à la fois dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise, hein, puisqu'on a une partie de notre actionnariat qui est détenue d'une part par les fondateurs, d'autre part par une société des cadres dirigeants qui a un petit peu moins de 8% du capital aujourd'hui, ensuite par un ensemble de salariés qui possèdent des actions en direct et qui possèdent des actions à travers un plan d'épargne entreprise qui est ouvert à l'ensemble des salariés, un système d'attribution de stock option qui concerne environ 10% du personnel de l'entreprise, et puis bien sûr des actionnaires extérieurs qui sont à la fois des investisseurs institutionnels et des actionnaires individuels. Nous avons en nombre d'actionnaires 97% d'actionnaires individuels actuellement dans la composition du capital. Donc voilà pour grosso modo pour la composition du capital. Pour ce qui concerne les relations sociales dans l'entreprise, eh bien chaque société qui compose le groupe a ses propres relations sociales dans l'entreprise. Pour compléter la réponse correspondant à la question de madame qui n'a pas été traitée tout à l'heure, eh bien on a une création d'emploi qui est assez forte dans l'entreprise. Le licenciement ne fait pas partie de nos préoccupations. Et les rachats d'entreprises concernent des entreprises qui sont toutes en bonne santé, qui, quand on les rachète, font en général 10 à 15% de croissance par an et 5 à 6% de résultats nets. Ce sont des sociétés qui sont en bonne santé et qui améliorent leur performance lorsqu'elles sont dans le groupe, pas par un coup de baguette magique, mais par du retour d'expérience en termes de management. Au niveau de l'innovation sociale, ben, je dirais que Il n'y a pas d'innovation proprement dite, il y a des relations normales, mais vous savez, on a une population qui est très homogène. Et d'abord, il y a 97 ou 98% de cadres dans l'entreprise, et sur l'ensemble de ces cadres, il y a 99% d'ingénieurs. Donc on a une population qui est vraiment très homogène et qui a, qui plus est, un niveau d'employabilité qui est très élevé. Je voudrais juste compléter, pardon madame, la réponse à une partie de votre question. Les spécialités qui sont présentes dans l'ensemble de notre groupe sont, premier métier représenté, les sciences physiques, environ 25% de la population, donc des ingénieurs spécialistes des questions mécaniques dans tous les métiers et dans tous les métiers des sciences physiques. La deuxième spécialité du groupe, c'est l'électronique, au sens microprocesseur, microélectronique. La troisième spécialité, c'est les technologies de l'information. Voilà grosso modo les trois grands métiers de l'entreprise qui correspondent d'ailleurs aux trois grandes spécialités qui rentrent dans la composition des systèmes modernes. Mais le premier métier en nombre, et donc en nombre de spécialistes, c'est l'ensemble des sciences des phénomènes physiques. Donc mécanique, thermique, aérodynamique, acoustique, vibration, matériaux, etc., etc. Les métiers classiques de l'ingénieur.
Oui, monsieur.
Bonjour. J'aimerais savoir quel type de contrôle de gestion vous avez mis en place dans votre entreprise.
Quel type de contrôle de gestion ? Bah, c'est assez simple. Il y a d'abord un contrôle de gestion par centre de profit, donc au niveau de chaque manager qui gère son activité comme un centre de profit autonome, donc comme une PME. Et puis il y a une consolidation de ses activités, bien sûr, au niveau d'une société, parce que c'est une structure juridique. Et il y a une consolidation financière qui est faite au niveau du groupe, qui est propriétaire de 100% du capital de ses filiales et qui donc publie eh bien, 4 fois par an des chiffres d'affaires consolidés et 2 fois par an des résultats consolidés, comme toute société cotée en bourse.
Oui, monsieur.
Ce qui m'intéresse, c'est ce parallélisme. C'est ce parallélisme avec le système nerveux. Il y a une grande différence, semble-t-il, avec un système nerveux dans son ensemble. C'est qu'un système nerveux comprend également des réflexes, c'est-à-dire des mécanismes réflexes en dehors des mécanismes fonctionnant en réseau, comme vous l'avez décrit. Et peut-être que l'explication de la différence vient de ce que vous avez dit, 97% de cadres. Donc en fait, c'est plus analogue à un cerveau qu'à un système nerveux dans son ensemble. Toutefois, il reste 3%. Puisque vous avez dit 87%, il reste 3%, et peut-être que ces 3% représentent alors les réflexes du système nerveux. D'autre part, je voudrais faire quand même une remarque, c'est qu'il y a un mélange bien souvent entre des aspects moraux, vous parlez de démocratie, etc., et des aspects, disons, capitalistes au sens classique, et donc la recherche du profit avant tout, ce qu'on a d'ailleurs critiqué dans le capitalisme en général. Alors, ce mélange, moi, j'avoue que je ne sais pas m'y retrouver tellement. En tout cas, de toute façon, à une société, et ça, c'est pas seulement votre conférence, mais d'autres conférences semblent l'avoir dit, c'est qu'il y aura dans la société future, il y a une disparition des classes sociales classiques, c'est-à-dire les plus riches, les moins riches, etc. Mais par contre, il y a naturellement une hiérarchie de valeur des individus, pour que, en réalité, vous visez surtout des gens qui ont déjà une grande valeur, puisque pour être cadre, quand même, il faut un certain minimum d'éducation. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Merci. Monsieur ?
Je peux peut-être faire un petit commentaire, bien que ce ne soit pas une question, peut-être un petit commentaire à ce que vous avez pu dire. Bon, d'abord, sur la partie réflexe de l'entreprise, je pense que ce serait un peu dur pour l'ensemble de nos salariés de leur dire que seulement 3% d'entre eux participent aux réflexes de l'entreprise. Je crois qu'ils participent tous à la capitalisation du savoir-faire. Et cette capitalisation, c'est la partie réflexe de l'entreprise, parce que c'est celle qui permet de réagir dans des situations données sans avoir à reconstituer justement son réseau. Donc celle-là, elle existe et vous avez, je dirais, un bon tiers des salariés de l'entreprise qui, au quotidien, passent une partie de leur temps à capitaliser le savoir-faire de leur propre entreprise. Donc ça me paraît important.
Oui, monsieur, s'il vous plaît.
Oui, deux questions rapides et une remarque préliminaire. Je crois que moi aussi j'ai des doutes sur l'application de ce modèle à d'autres types d'entreprises, notamment industrielles. Et je pense que c'est un modèle réservé au secteur des services et de haute technologie et de haute technicité. J'avais deux questions très rapides. Vous avez parlé, en fait, dans l'historique de l'entreprise, de 82 à 2002, environ 10 000 créations d'emplois, d'embauches. Et je voulais savoir, en fait, combien de personnes ont été licenciées sur ces 20 années, et combien, ou si vous préférez, combien de temps dure en moyenne un cadre dans l'entreprise Altran, et aussi combien d'heures travaillent les consultants chez vous par semaine. Voilà.
Bon, d'abord dans une entreprise comme la nôtre, il y a des départs. Les départs, malheureusement, sont des départs, enfin je dis malheureusement, heureusement sur le plan social, et malheureusement pour nous, sont des départs volontaires, ce sont des départs de gens qui ont envie à un moment donné d'aller faire autre chose ailleurs, parce que, pour des tas de raisons, pour des raisons géographiques, pour des raisons techniques, parce qu'on n'a pas su un jour leur donner satisfaction, et ça c'est normal que les gens que les gens bougent. Bon, on a un turnover qui, suivant les années, se situe entre 12 et 15%, ce qui est, par rapport à la moyenne des professions du conseil, un turnover relativement faible, et ce qui est dans l'absolu un turnover relativement élevé. Mais ça, c'est la vie. Je dirais c'est le niveau d'employabilité des gens qui sont chez nous qui fait qu'ils peuvent trouver du travail. Avant, c'était en collant trois timbres sur trois enveloppes. Maintenant, c'est un clic. Donc, vous savez, on a parlé de structure décentralisée. Si les managers qui sont normalement les guides de carrière de leurs consultants ne sont pas capables de les faire évoluer correctement, de les faire progresser à travers chacune de leurs expériences, ben il est normal que les gens disent ben moi, désolé, j'avais plus d'attentes que ça et je m'en vais. Donc il y a des gens qui partent, et c'est normal. Et on le regrette et on essaie de faire diminuer ce nombre, mais il y a des gens qui partent, c'est un fait. Les licenciements doivent se compter par unité depuis la création de l'entreprise. Donc, il concerne absolument des cas extrêmes. Il n'y a jamais eu de processus de licenciement dans l'entreprise. Ça ne fait pas partie des mœurs de notre entreprise. D'autre part, le temps de travail, grosso modo, je pense que les consultants travaillent en moyenne plus de 40 heures. Je pense que les projets qu'ils mènent nécessite très souvent de se situer entre 40 et 42 heures. On est très content de ce qui est en train de se passer au niveau de la réduction du temps de travail parce qu'on va enfin pouvoir comptabiliser les choses et enfin pouvoir d'abord attribuer des jours de repos compensateurs dans le cadre de l'aménagement du temps de travail. Donc on va gérer, nous, les tranches exceptionnelles d'activité au-delà des 35 heures. C'est quelque chose que nous avons décidé d'appliquer depuis le 1er février à travers des modalités d'application de la RTT sans attendre la fin de la période dite d'observation, c'est-à-dire la fin de l'année 2000.
Oui, s'il vous plaît, madame.
Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir comment, dans une structure en réseau qui est composée de cellules autonomes et qui sont en même temps en concurrence entre elles, il peut y avoir une diffusion de l'information qui soit positive, permettre d'utiliser en fait les expériences positives de chaque unité pour l'ensemble des autres, parce que ça avait l'air d'être un des objectifs en tout cas de cette structure, si vous pouviez m'expliquer.
Il y a deux types d'informations. Vous avez des informations technologiques sensibles, vous avez des informations technologiques plus générales, vous avez des savoir-faire acquis lors de la réalisation des projets, et enfin vous avez des techniques managériales et des savoir-faire managériels. Alors, pour ce qui concerne les savoir-faire technologiques sensibles, chacune des sociétés du groupe se les réserve. Ce qui est normal, et c'est ce qu'elles promettent à leurs propres clients. Quand on est dans le domaine du conseil en recherche et développement, on a un devoir de confidentialité qui est extrême. Et les clauses de confidentialité que nous signons avec nos clients sont drastiques. Elles concernent la non-divulgation des informations, la non-révélation du nom des projets, quelquefois même du nom des clients, et pour des durées qui sont de l'ordre de 5 à 10 ans. Donc il est certain que sur ce plan-là, les sociétés du groupe se réservent, à l'intérieur de leur structure juridique, les connaissances techniques sensibles. Les connaissances techniques généralisables sont ouvertes au groupe et capitalisées à travers un certain nombre de relais. Donc c'est à peu près le tiers des personnes dont j'ai parlé qui participent à cette capitalisation de savoir-faire. Quant au savoir-faire managérial, celui-là, il est capitalisé. Il ne concerne pas des informations sensibles sur le plan technologique. Et le retour d'expérience en termes de management, celui-là, il est relayé par l'Institut du Management de Altran, notre structure interne de management, de formation, qui redonne le savoir-faire capitalisé à tous ceux qui ont envie de venir se former, donc que ce soit des managers, des consultants ou des dirigeants d'entreprise. Pour information, les structures qui composent notre groupe sont des sociétés qui vont, pour la plus petite, de 10 salariés et pour la plus grosse, 1500. Donc vous avez dans ce groupe une constellation de PME. La grosse majorité des entreprises de ce groupe font entre 40 et 200 personnes. Donc ce sont vraiment des PME. Et c'est intéressant pour les dirigeants de ces PME de savoir comment ça va se passer, leur propre évolution, c'est-à-dire comment ils vont gérer leur croissance, comment ils vont gérer l'organisation de leur entreprise au fur et à mesure de son évolution. Et ça, c'est capitalisé et redonné à travers notre école de management interne.
Oui, monsieur, une dernière question.
Oui, moi j'avais deux questions, mais vous avez répondu à la seconde, c'était le turnover. Ma première question, c'était, vous nous avez dit que votre développement se faisait par croissance externe, que vous respectiez les cultures, l'âme des entreprises que vous rachetiez, mais et que leur performance, qui était de l'ordre de 4 à 5%, progressait sans que vous le disiez si rapidement apparemment. Alors, est-ce que c'est uniquement parce que ces sociétés que vous avez rachetées, qui, je suppose, n'avaient pas de structure par réseau, l'ont acquise, cette structure par réseau, et que c'est de là que vient l'augmentation des performances, les gens étant restés les mêmes?
Alors, première réponse concernant la croissance. Premièrement, les sociétés qui composent le groupe ont été acquises. Mais la croissance de l'entreprise se fait par trois quarts croissance interne, un quart croissance externe pour le taux de croissance. Le taux de croissance a été de plus de 40% l'année dernière pour ce groupe. Il y a eu plus de 30% de croissance interne et seulement 10% de croissance externe. Là, je parle vraiment dans les valeurs absolues qui composent les chiffres d'affaires. Au premier trimestre, nous avons fait 42% de croissance. Là-dedans, il y avait 36% de croissance interne. Donc le taux de croissance interne est toujours le plus élevé. Pour ce qui concerne les dirigeants des entreprises, quand on les contacte au moment des rachats, d'abord c'est parce qu'ils ont fait un tour de table à travers des organismes financiers, qui sont des intermédiaires financiers, et ils cherchent des entreprises avec lesquelles ils aimeraient coopérer et à qui ils pourraient vendre leur capital. C'est eux qui identifient leur racheteur et ce n'est pas l'inverse. Donc on n'est pas dans du syndrome tapis, comme vous auriez pu le laisser entendre, madame, c'est-à-dire on rachète des sociétés qui vont mal pour un franc symbolique. On rachète des sociétés qui vont bien et qui cherchent elles-mêmes à identifier leur repreneur et qui trient leur repreneur à travers la qualité de leur management. Il n'est pas question de vendre son capital si c'est pour perdre sa liberté et rien avoir en retour. Donc, ce qui est dit aux dirigeants des entreprises, c'est un truc qui est à peine croyable, donc j'entendais les gens effectivement rire quand vous avez posé la question, parce que a priori, on se dit, alors là, c'est vraiment du baratin total. C'est-à-dire que laisser la liberté à des gens, ce n'est pas concevable. Alors ce qu'on fait en général, c'est que les dirigeants de sociétés qui cherchent à savoir comment ça se passe dans le groupe, eh bien on leur donne les coordonnées de l'ensemble des dirigeants. Il y a 90 sociétés aujourd'hui dans le groupe, hein, 90 filiales. On leur donne donc les coordonnées des dirigeants des 90 filiales. Certaines sont dans le groupe depuis un an, d'autres 5 ans, d'autres 8 ans. Et on leur dit, bah, écoutez, demandez-leur comment ça s'est passé. Demandez-leur ce qu'ils ont perdu en rentrant dans le groupe, à part le contrôle de leur capital, mais ils l'ont souhaité. Et demandez-leur ce qu'ils ont gagné en termes d'efficacité. Et demandez-leur surtout si leur vie managériale a été modifiée et si leur liberté managériale a été modifiée ou pas. Voilà. Donc, moi, d'abord, je ne vais pas vous donner la réponse à leur place, mais les gens estiment qu'on n'a pas mis la main sur leur capacité managériale. On a ajouté des outils à leur disposition. Il y a une boîte à outils à disposition, du retour d'expérience managériale. Ils prennent, ils ne prennent pas. Il y a des sociétés dont les dirigeants n'ont quasiment aucun contact avec le groupe pendant 6 mois, d'autres pendant 1 an, parce qu'ils veulent d'abord voir s'il ne s'est rien passé de grave à partir du moment où ils se sont vendus. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont dans l'ensemble promis à leurs salariés. Eux aussi ont des salariés avec un très haut niveau d'employabilité. Donc quand une société se fait racheter, et que c'est une société à valeur ajoutée intellectuelle, eh ben les salariés ont peur et ils se disent si ça se passe mal, eh ben nous on fiche le camp. Et dans ces conditions, vous rachetez une coquille vide. Et ce n'est pas le but, surtout qu'on les paye cher. Donc pas du tout pour un franc symbolique, madame. Très cher. Donc, les dirigeants veulent savoir s'il n'y aura pas d'inconvénient majeur après ce rachat. Donc ils demandent à leurs salariés de s'exprimer là-dessus, et là, ces salariés leur disent, eh ben, on verra bien, dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, ce qui se sera passé de grave. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens de l'état-major du groupe qui vont débarquer dans les filiales? Est-ce qu'on va remplacer les dirigeants? Est-ce qu'on va changer les procédures internes? Rien de tout ça n'est modifié. C'est pour ça que l'intégration des entreprises prend quelquefois 3 mois, 6 mois, quelquefois 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est un processus long qui est basé sur la communication avec des gens. Donc ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, ça se fait sur le transfert d'expérience à condition que les gens aient envie de la recevoir. S'ils n'ont pas envie, eh ben, ils mettent 3 ans à progresser et à changer leur niveau de performance tel que vous les avez évoqués. Donc la modification des performances des entreprises qui rentrent dans le groupe, je vous dis, ça arrive au bout d'un mois pour certaines qui ont décidé de tout prendre tout de suite, des tas d'outils, des tas de méthodes, des tas de personnes dans le réseau qui peuvent les aider. Ils les contactent tout de suite et d'autres le font beaucoup plus tard par crainte et simplement pour vérifier qu'il ne se sera rien passé de grave entre-temps et rassurer leurs salariés. Ce qu'on comprend, tout à fait, ça nous va bien.
Voilà. Merci, Michel Friedlander.